Merci pour les titres, on vous retrouve à 18h. Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes. Cette semaine, de la radicalisation au djihadisme, chroniques intimes d'un fiasco républicain. Au départ de cette série, il y a un mot, radicalisation. Un mot qui est partout, depuis Charlie, depuis le 13 novembre, un mot qu'on manie sans bien comprendre ce qu'il recoupe et surtout sans imaginer comment il s'incarne chez ceux qui vivent cette radicalisation. Alors bien sûr, c'est eux qu'on va entendre aujourd'hui. Pour commencer, les personnages, une mère qui veut faire revenir son fils de Syrie, un père résigné, des repentis qui racontent, des sœurs et des cousines en deuil. Ensuite, le décor des appartements devenus vides, des rendez-vous discrets, des cabinets de psychologues. On est en France, pas loin de Nice, quelques mois avant le 14 juillet meurtrier, c'est à côté de chez vous, de chez nous, et pourtant, on ne comprend rien. Alors on est allé écouter comment ceux qui l'ont côtoyé de près comprennent la radicalisation. Alors à qui la faute? Aujourd'hui, deuxième épisode, Radicalisation, la France n'avait qu'à bien se tenir, un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Doria Zénine.
On va écouter un extrait audio de ce que vous allez montrer ce soir en image, une séquence hallucinante de plongeon. C'est quasi la colonie de vacances.
Ces gens-là, qui sont tout en haut, ces deux jeunes, en fait, c'est la représentation de la Hijra. Parce que cher Anou Aoulaki, il a dit que la Hijra, c'est comme lorsqu'on est en haut d'une falaise et qu'on se jette sans savoir sur quoi on va tomber. Ça peut être des rochers ou de l'eau. Donc c'est un peu l'image de la Hijra. Vous pouvez faire un son supérieur et tout. Attention. Vas-y. Voilà. Bon. Allez.
Ouais. C'est l'apologie du direct qu'on fait à la télé. Il a fait un film avec Omar Gaby. Le recruteur, il y a mon fils, il y a le petit Brian. J'ai appelé sa maman, aujourd'hui on est morte, on n'a pas envie de voir ça. Mais c'est quoi cette souffrance avec des gamins qui témoignent à la télé qu'on fait ressusciter au mardi? Alain, il y a des gens, ils sont pourris. Je n'ai plus quoi faire, j'ai pas envie de voir mon fils à la télé.
Radicalisation, la France n'avait qu'à bien se tenir. Par Alain Lefkovitch et Doria Zénine.
Il m'a pas appelé Boutilly. Pourquoi il me l'a pas dit avant? Pourquoi?
Nous, on n'a rien à faire à la télé, Alain. Rien. C'est pareil, eux, ils ont fait complément d'enquête avec Mera. Mais il sert à quoi, le frère Mera? Il va dire que son frère, il a tué 7 personnes. Mais je l'ai vu moi aussi, ça, hein. Et que son frère, il a été radicalisé par l'autre. Et alors, quand il a dit ça, qu'est-ce qui se change? Ça change quoi à l'affaire? Les parents, on sait parce que les associations ont besoin de nous pour avoir des fonds, ça c'est certain. Et aux journalistes, ça fait que vous ne serez pas au chômage demain, quoi. Ça c'est sûr. Hein. Eh bien, ça a donné du travail aux psychologues, aux journalistes, aux... C'est bien, bravo le Gian.
Je parle avec le cœur d'une maman, ça fait 2 ans et demi que mon bébé il est parti. Demain, des gamins, ils vont le voir, ils vont faire quoi?
Mais il y a médias et médias. Faut faire la différence, en fait. C'est-à-dire parce qu'il y a les médias où ils disent ce qui se passe dans le monde et il y a les médias où ils te bouffent le cerveau. Ça, c'est vrai.
C'est tout à fait la BFM TV, ils te bouffent le cerveau et LCI disent la vérité.
En quelque sorte.
En
fait, quand je regarde les médias, j'ai la haine. Donc je pense que tout le monde, c'est pareil. Que ce soit des musulmans ou non musulmans. Parce que déjà, ils vont parler des musulmans. Moi, ça va me foutre la haine parce qu'ils parlent des musulmans alors que les musulmans ne sont pas comme ça. Et les non-musulmans, ils vont dire « Purée, mais tu vois ces putains de musulmans, comment ils sont ?» Et en fait, après, les non-musulmans et musulmans, se mangent entre eux. Parce que les médias ont fait que...
1er juin 2016, 21h. Michel, dont le fils est parti faire le djihad en Syrie depuis plus de 2 ans, m'appelle, comme elle le fait régulièrement depuis notre première rencontre au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Elle me donne des nouvelles de Fred, son fils cadet recruté à Nice dans le quartier de l'Ariane, par le tristement célèbre Omar Diaby, alias Omar Homsen, ancien voyou local radicalisé en prison. Mais ce soir-là, Michel n'arrive pas à contenir ses larmes et encore moins sa colère. Elle vient d'apprendre par les réseaux sociaux qu'elle fréquente quotidiennement que le complément d'enquête, magazine phare de France 2, programmé le lendemain, sera consacré au groupe de djihadistes français dirigé par Omar Diaby et dont Fred fait partie. Un film de Romain Boutilly, journaliste qu'elle a déjà rencontré peu de temps après le départ de son fils. Accompagnée de Nadine, mère de Brian, compagnon d'infortune de Fred, Michel est désemparée. Si elle me parle de l'impact qu'un tel film pourrait avoir sur les jeunes candidats au djihad, elle me demande comment interdire la diffusion. Impossible. Nadine contacte le journaliste. Après plusieurs SMS, elle lui dit qu'elle ne souhaite pas voir son fils à la télé. La réponse est cinglante, autant que glaçante. Empêcher la diffusion d'un documentaire de 75 minutes qui est prévu depuis 6 mois? Vous imaginez, si toutes les familles réagissaient comme vous, plus rien ne passerait à la télé. Reportage après reportage, les médias semblaient jouer avec le feu et la surenchère. Qui fera le plus gros buzz? En attendant, personne n'entendait revenir aux sources mêmes de cette radicalisation qui s'emparait dangereusement de cette jeunesse française à l'horizon funeste. Michel restait seul face à ses interrogations, tandis que les pouvoirs publics feignaient de découvrir une réalité qu'ils avaient pourtant occultée depuis des décennies. Parler d'école, de formation, d'accès à l'emploi, de logement, d'inégalité sociale, d'un modèle républicain et d'un vivre-ensemble en panne ne semblait intéresser personne. C'est pourtant à toutes ces questions qu'il faudra bien répondre un jour.
Bien avant, il y a d'autres gamins du quartier qui sont partis là-bas, mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est égoïste. D'ailleurs, je me le reproche, peut-être j'aurais pu devancer le départ de mon fils, mais d'autres étaient déjà partis et étaient revenus. Je me disais, tiens, c'est une mode, ils s'en vont, ils reviennent. Mais c'est quand ça vous tombe à vous. Après, on voit ça différemment. C'est vraiment égoïste. Moi, le premier, c'est quand le meilleur ami à mon fils est parti. J'ai dit à mon fils, je pleurais parce que j'aimais beaucoup ce gamin, je lui ai dit, ne fais jamais ce que Ali a fait à sa mère. J'ai vu sa mère ramper par terre, à genoux. Je lui ai dit à mon propre gamin, j'ai dit, ne me fais... Ne... Non, maman, il m'a dit. Et 3 mois après, il partait... Puis il y a trop de communautés, c'est terrible, on dirait des ghettos, on dirait même plus des quartiers, c'est des ghettos, carrément des ghettos, des endroits où vous avez peur, vous vous dites on se sent plus chez nous, on n'est plus chez nous, je suis désolée, on parle même plus le français, on se sent plus chez nous. Non, moi le changement, comme je dis, je ne changerai jamais d'avis, ça fait depuis 3 ans. Je suis désolée de dire ça, mais ça fait depuis 3 ans que je vois de plus en plus de femmes voilées, de plus en plus de gens qui se limitent. Le français moyen, hein, s'en va. Ils s'en vont des quartiers, ils ne peuvent plus. On peut pas, on peut plus. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de... Il faut... C'est malheureux à dire. Je le dis, c'est pas beau ce que je vais dire. Mais mes amis sauront que je parle pas pour eux. Mais je pense que il faudrait intégrer ces gens qui arrivent, qui n'ont pas les mêmes la même religion, les mêmes. Il faudrait essayer de leur faire comprendre que c'est qu'il faut qu'ils adaptent à nous, que nous on peut pas toujours s'adapter à eux non plus. On peut pas, on essaye. Moi j'ai essayé. Je suis pas, on m'a traité de raciste, je suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, pas du tout, vraiment pas. Mais parfois je me dis, mais c'est quoi? On laisse trop faire. On devrait éduquer les parents et peut-être... on pourrait être tous bien ensemble. Je me pose un tas de questions, je me dis... Est-ce que parce que je suis restée dans ce quartier, j'aurais dû faire comme d'autres, entre guillemets, français, qui sont partis parce qu'ils en avaient marre, qu'ils en avaient... Voilà. Je me dis, j'aurais dû partir. Je regrette.
Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, de tous les mettre dans... En fait, les mettre dans des cubes, en fait, c'est les mettre à part. C'est les mettre à part, pour moi.
Dunyazade, Scheherazade et Zoumouloud, proches de djihadistes morts en Syrie.
Mais en fait, ça a été fait exprès parce qu'apparemment, quand il y avait les immigrés et tout, eh ben, ils avaient construit des... Moi, je trouve ça sympa de construire des trucs pour... Mais ça a été tout le temps fait en dehors de tout ce qui est la ville, tout ce qui est... où tout se passe, en fait. C'est comme Montpellier avec la paillade. Il y a la ville et puis il faut prendre un long périph' pour aller à la paillade. Et pourquoi la paillade, elle serait pas juste à côté du centre-ville? Je sais pas. Les entasser dans des immeubles, il y a un seul ascenseur qui passe pas, ça tire la corde pour remonter les courses et tout. C'est des immeubles de 30 étages. C'est dégueulasse. C'est comme des moutons enfermés dans un enclos, c'est pareil. C'est pareil. Dans tous ces quartiers, la plupart, c'est les... tout ce qui est flics, gendarmes et tout, ben, rentre vraiment pas. Enfin, surtout les grands quartiers. Ils connaissent pas toutes les cachettes, faut dire ce qu'il y a, c'est des immeubles énormes, c'est... Il peut y avoir même des pièces cachées là-bas, en sous-sol, sous terre, sous tout ce que vous voulez, mais...
Et pourquoi ils vont plus les flics dans ces quartiers?
Parce qu'ils ont fait leur loi, en quelque sorte. Ces gens qui se sont ressentis rejetés ont fait leur propre ville, en fait. On est dans GTA, en fait, c'est ça. Ils ont fait leur propre ville. C'est ça. Mais... Et ouais, de se sentir rejeté, c'est ça, on veut se faire son propre monde.
Mais pourquoi les policiers, justement, vous parlez des policiers, des gendarmes, ne vont plus dans ces quartiers-là?
Ben, je sais pas, parce que s'ils veulent vraiment, ils peuvent y aller. S'ils veulent vraiment, ils peuvent y aller, ils ont tous les moyens d'y aller. Mais je pense qu'ils les évitent. Ils y vont de temps en temps pour montrer, ouais, on vient pas tout le temps, mais on est là. Mais ils les évitent, en fait. Ils les contournent, en fait, ils y sont même pas dans cette ville. Bah, dans les quartiers, maintenant, ça rigole plus, quoi. C'est armé, ça existe plus, l'arme blanche, hein. Ouais, c'est un état, quoi. J'ai envie de dire, c'est un état, c'est comme l'état islamique. Hein. Du jour au lendemain, c'est devenu un grand état. Du jour au lendemain, on va se demander pourquoi. Il n'y a rien pour les jeunes, en fait. Il n'y a rien. Surtout les enfants d'immigrés, je pense. Après, les enfants d'immigrés, franchement, on est rejetés. On est autant français que les Français eux-mêmes, quoi. Mais en fait, on n'est pas français pour la société française, on n'est pas français.
On allait à l'école, ils nous disaient « Vous venez pour les allocations ouais. ». Ça se dit pas, ça. En tout cas, moi, personnellement, pareil, je ne touchais pas l'allocation. J'allais à l'école parce que j'étais obligée d'aller à l'école, c'est tout. Mais ça se dit vraiment pas, ça. Mon père, ça fait... Depuis qu'il est en France, il travaille. Il n'a pas arrêté de travailler. Ma mère, pareil.
Mon père n'est pas né ici, mais quand il est arrivé, depuis qu'il est arrivé, il travaille, il n'arrête pas. Il n'est pas en train de bouffer la France ou en train d'aller voler ou je ne sais pas quoi, non. Il respecte la France comme un Français, quoi. Comme il respecterait son pays d'origine.
Après, ils mettent tout dans le même sac. Tout le monde dans le même sac. C'est de l'amalgame, quoi.
C'est chiant, c'est lourd. Même nous, on a envie de partir. Mais où, on sait même pas. Parce que même dans notre pays d'origine, quand on va là-bas, on est des immigrés. On n'est même pas des Marocains ou des Algériens, on est des immigrés. En fait, on est nulle part chez nous.
À part dans le bateau. À part dans le bateau.
Ouais, c'est ça, en fait. On se sent autant français que n'importe quel Français. C'est ça, mais...
Je suis française, d'origine tunisienne-algérienne. Après, je me sens française parce que j'ai vécu ici, j'ai grandi ici. Après, personne m'enlèvera ma religion, personne m'enlèvera mes origines. Je suis fière d'être arabe, je suis fière d'être musulmane. Parce que je connais ma culture et je connais les valeurs de la religion islamique. Après, il faut juste apprendre à connaître. Il y a des gens, ils regardent que ce que la télé leur dit. Donc, ils n'ouvrent pas leur regard sur le reste. Ils vont pas apprendre à connaître une personne de confession musulmane, une personne arabe, apprendre à connaître la culture, tout ça. Par contre, quand il s'agit de manger du couscous, là, ils les aiment, les Arabes. Mais je me sens française, mais l'État français m'enlève cette sensation. L'État français fait en sorte que les jeunes de quartier restent dans leur quartier, restent dans leur merde.
Pourquoi c'est difficile pour tous ces jeunes de parler? On a l'impression que ici, dès qu'il y en a un qui parle, ça peut être dangereux pour lui ou pour son interlocuteur. Il y a une espèce d'omerta sur toutes ces thématiques ici.
Alors sur le territoire, je pense qu'en effet c'est un peu particulier. Tous ces jeunes se connaissent, même s'ils ne se fréquentent pas trop. Donc il y a des grosses suspicions de qui traîne avec qui fait quoi. Finalement, il y a un peu une ambiance de petit village.
Marianne est psychologue à la mission locale de la petite ville du Var, où vivent Dunyazade, Scheherazade et Zoumouloud. Trois jeunes filles qu'elle reçoit toutes les semaines depuis le départ et la mort en Syrie de leurs frères et cousins. un long travail de reconstruction et une confiance à regagner.
Il y a une grosse méfiance vis-à-vis des médias, des politiques, même avec les élus de terrain. Les relations sont très compliquées. Et c'est difficile, du coup, de témoigner à visage découvert.
Pourquoi ça les dérange de témoigner, sachant que les autres peuvent savoir qu'ils ont témoigné ?
Je pense que ce qu'ils se disent, au fond, c'est qu'ils vont être considérés comme des balances. Balance aux journalistes. Et je pense que c'est pour ça qu'ils préfèrent être cachés. Il y a quand même un gros clash avec les journalistes. Hein. Il y a certains qui se sont exprimés déjà et je pense qu'ils n'ont pas été très satisfaits du résultat.
Moi, le jeune qui a enragé, je l'ai en face de moi tous les jours.
Tahara Kermi, travailleur social dans le sud de la France.
Je dis bien les jeunes enragés, je les ai en face de moi tous les jours.
Non. Ça veut dire quoi un jeune enragé ?
Ben, un jeune qui n'a pas sa place dans la société, quoi. Qui estime qu'il n'a pas sa place. Il vient réclamer ses droits. Qui pas d'envie, partait sur un projet avec lui, il n'a pas envie de le finir parce qu'il ne voit pas de perspective, parce qu'il voit que c'est une société qui ne croit pas en lui, parce qu'il voit qu'il est montré du doigt en permanence. C'est des signes en fait qui sont pratiquement, je dirais, presque subliminales. Mais c'est ressenti tout ça. C'est ressenti au quotidien. Vous savez, un jeune qui est issu d'immigration, il a le cul entre deux chaises, entre deux cultures. En même temps, c'est une richesse, mais si vous n'avez pas les capacités à les décoder et à les comprendre, ben vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Et qui doit être là pour vous aider, en fait, à décoder tout ça ? C'est pas évident. Franchement, c'est pas du tout évident. Donc ça, ce sont les difficultés. Alors, c'est pas dit comme ça verbalement, mais vous êtes amené à le comprendre, ça. Quand il vous parle de ses problèmes de sa famille, pas de boulot, par les problèmes de l'habitat, par exemple. Ça, c'est pareil, ça aussi, le problème de l'habitat. C'est un réel problème. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui habitent avec un jardin de 600 mètres carrés, voilà, plein de verdure, et puis là, 300 mètres d'habitation. Et puis vous avez ceux qui habitent des HLM entassés les uns sur les autres. Je suis désolé, hein. Moi, je ne veux pas faire d'explications philosophiques ni sociologiques, mais entasser les gens les uns contre les autres, forcément... On se pisse dessus, on se chie dessus, on fait du bruit, on s'engueule, on se truc. Donc forcément, ça a des conséquences, tout ça. Tout ça, ça se construit aussi. C'est une façon de concevoir une société. Mais je pense que moi, le problème... Alors là, c'est un avis, hein, je peux certainement me tromper. Mais je pense que les problèmes de colonie ont véritablement une résonance dans nos consciences, à tous. Je dis bien à tous. Tous, comme on est. Mais catastrophique. Des choses qui n'ont pas été dites. Il n'y a pas de franchise, on ne se dit pas les choses. Et forcément, si on ne se dit pas les choses, forcément, c'est comme un couple, quoi. Je veux dire, si vous ne dites pas les choses, il va venir un jour, ça claque, quoi. Ça pète. Ça pète par des séparations, des divorces. Voilà. On est dans une société, en fait, qui est divorcée avec elle-même, quoi. C'est ça qui est grave. Alors, un couple peut aussi s'asseoir autour d'une table et parler de ses problèmes. Mais parler de ses problèmes. Si ça a éclaté, c'est qu'on a des problèmes. Donc parlons-en. Même si c'est difficile. Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai presque 50 balais. Je suis un pur produit de ce qu'on appelait les grands frères. C'est la politique des grands frères. C'était Mitterrand qui a créé ça, la politique des grands frères. C'est-à-dire qu'on prenait le grand de la cité, qui est plus ou moins respecté un peu. Généralement, c'était plutôt un rapport de force que plutôt qu'autre chose. Et on lui disait, tiens, ben, la mairie va t'embaucher, et puis on va t'appeler médiateur. Mais ces mecs-là, ni formés, ni... souvent, ils ne savaient ni lire ni écrire. On lui disait, tu vas faire respecter la règle dans ton quartier. Mais franchement, moi, quand je pense à ça, je suis critique, je suis issu de ça. Hein. Dans les années 90, effectivement, moi, je pense qu'il y a une conscience, je pense qu'il y a une réelle volonté. On a mis les moyens financiers, mais je pense que la réflexion n'y était pas. C'est ça le problème, il manque toujours un truc, c'est-à-dire qu'on a mis les moyens financiers, mais c'est-à-dire de dire, tiens, les gens, on va les laisser dans leur quartier, on va faire avec eux dans leur quartier. Donc, grosso modo, on va leur distribuer de l'argent, et ils vont se démerder avec quoi. Alors, elle n'est pas là la solution. C'est-à-dire, au contraire, les gens, il faut les sortir de leur quartier, les amener vers d'autres quartiers, les amener vers les autres, comment les autres vivent leur situation sociale et compagnie, et la croiser avec les autres. Des années 90, c'est les quartiers populaires. On a mis le paquet dans voilà quoi, la culture hip-hop, dans la culture rap. J'ai rien contre, hein. Je suis issu de ces trucs-là, moi. Mais à un moment donné, c'est pas ça qui permet aux gens d'accéder à ce que j'appelle, moi, la culture. Avec un grand C. 2005. Qu'est-ce qu'on a fait après 2005 ? Qu'est-ce qu'on a fait après 2005 ? Franchement. Il y a 10 ans en arrière. Je veux dire... 2005, on a dit, ah, on va mettre tout sur la table, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a mis ? Qu'est-ce qu'on a fait ? 10 ans après, on se retrouve avec des jeunes qui se barrent à l'étranger, quoi, qui partent en série. C'est ça le, c'était ça le cadeau qu'on nous a promis ? Ah, il faut arrêter, quoi. On a foiré, moi je vous le dis, on a foiré. Donc il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de faire des émissions de télé, là, et nous faire croire que ça y est, on nous amène deux blacks, deux rebeux sur un plateau, et on leur donne le micro et on leur dit, racontez-nous notre petite vie. Et ça va, quoi. Là, c'est la politique du zoo, quoi. Vous venez visiter le zoo, quoi. Faut arrêter le délire, quoi. Et balancer des cacahuètes. Faut arrêter ça, hein. Arrêtez, parce que ça va nous revenir dans la gueule. La preuve, on est en train de le prendre dans la gueule. Bien sûr qu'il y a une partie du pays qui a été abandonnée. Bien évidemment qu'elle a été abandonnée. Et voilà, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle va être récupérée par qui ? Parce que même cette catégorie-là, aujourd'hui, le paradoxe dans cette histoire-là, c'est que même cette catégorie-là, qui est complètement laissée à l'abandon, elle commence à nous faire peur, à lui dire, bah ouais, bah nous aussi on va voter Front National. Quoi. Alors je dis pas que tous les quartiers populaires votent Front National, mais les signaux, on commence à les voir arriver, quoi. Moi-même, je me fais peur, quoi. Mais je le dis de manière lucide, que le prochain parti identitaire va être élu par ces quartiers qu'on a abandonnés. Et ce jour-là, on va rigoler. Mais vraiment, on va rigoler, quoi. Et ceux qui ont eu des responsabilités les 30 dernières années, là, ils ont intérêt de se serrer les cacahuètes, là, parce que je me demande avec quelle conscience ils vont partir à la retraite, ceux-là, tu vois. C'est grave.
Girofarina action tous les soirs. Ils vont faire un tourman dans les cités dortoirs. Opération coup de main, toujours dans le noir. Ouverture de la chasse aux jeunes et aux traînards. Et s'il n'y a pas de vrai coupable, il y a toujours les honneurs. Si tu parles de bavure, ils perdent tous la mémoire. Bleu blanc girofard, bleu blanc girofard, bleu blanc girofard. Danse, danse sur la police. Danse, danse sur la police.
23 mars 2016. Le gouvernement français nous l'avait promis au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes. Il allait établir les bases d'un nouveau vivre ensemble, et pour montrer que depuis il travaillait d'arrache-pied, il annonçait fièrement ce jour-là la mise en place d'une mesure présentée à grand renfort de communication comme devant permettre de lutter efficacement contre les discriminations à l'embauche dont sont victimes certaines catégories de citoyens. La veille, le 22 mars, Bruxelles était frappée à son tour par des attaques terroristes revendiquées par l'État islamique et pleurait ses morts. Nous lancions le testing pour la xème fois.
Le procédé est utilisé par SOS Racisme depuis plus de 20 ans.
Vous avez Camille Pelletier et Chérifa Yayaoui qui postulent donc au même poste, non, le même, du coup dans le même hôtel.
Seuls les noms et les prénoms varient. Pour le reste, ces deux candidates imaginaires se ressemblent en tout point. Leurs CV seront d'ailleurs envoyés à la même entreprise.
On constate que quand même, la plupart du temps, c'est la personne avec un nom d'origine française ancienne qui est rappelée pour un entretien d'embauche.
Cette méthode bien connue des associations sera désormais employée par l'État. Le ministère du Travail lance une campagne de testing à grande échelle à partir du début du mois d'avril. Entre 20 et 50 entreprises de plus de 1000 salariés vont être mises à l'épreuve avec ces faux CV. Quels que soient les résultats, ces entreprises ne seront pas sanctionnées. Selon une récente étude, les candidats au patronyme d'origine nord-africaine ont 4 fois moins de chances de décrocher un entretien.
Le testing, permettez-moi de vous dire que c'est une grosse blague.
Marianne.
Je vais être assez franche. C'est une grosse blague, on le sait, on le sait. Moi, je travaille dans l'insertion, il y a des fois des employeurs qui nous le disent clairement. Cette personne ne sera pas retenue parce que... Bah, son nom, il plaît pas trop, ou ses origines, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On dénonce ces personnes ? Non, on laisse couler, et puis ça se passe comme ça. Alors, on peut faire des tests, hein. On peut faire des tests, mais on le sait, ça sert à rien. Pour moi, c'est du temps perdu et d'argent perdu. Il y a des choses plus urgentes à faire. Quel est le projet de la France ? Quelle est l'idéologie française ? Dans quoi ces jeunes se reconnaissent aujourd'hui ? Même un jeune qui a Bac plus 5, rajouté à ça... J'ai mon frère qui est parti en Syrie, j'ai ma mère qui est toute seule, qui élève 5 enfants, j'ai ici... Ça manque de perspective. Ça manque de perspective. Moi, je suis désolée, mais quand j'essaie de travailler avec ces jeunes sur ce qu'ils aiment, leur passion, des fois, je vais gratter jusqu'à... Excusez-moi d'employer ce terme-là, mais je vais gratter jusqu'à... Mais dites-moi que vous aimez regarder la télé et rester sur votre canapé à regarder la télé. Déjà, j'aurai un élément sur lequel m'appuyer. Non, il y a du vide. Il y a du vide. J'aime rien. Non, je sais pas. Je ne sais même pas ce qu'ils font de leur journée, pour certains. Pas de projet commun, pas d'idéologie, pas de... Et puis, alors, on peut parler des réseaux sociaux, parce que c'est intéressant en termes de terrorisme aussi. On est... Je pense que vous avez un Facebook comme moi, voilà, qu'on utilise de manière, je pense... J'allais dire intelligente, peut-être pas, mais en tout cas, on essaie de bien l'utiliser. Même en ayant une très bonne utilisation de Facebook, on va pouvoir avoir des images qui vont nous apparaître d'horreur, sans savoir d'où cette image elle est. Voilà. Est-ce que c'est un fake, pas un fake ? Est-ce que chacun est sensible à cause animale, à cause écologique, et d'autres, ça va être la cause des musulmans. Et toutes ces images qui nous arrivent d'horreur, en permanence, des infos, des réseaux sociaux, ces jeunes, ils croient à tout. Voilà. Et il n'y a quand même aucun projet, excusez-moi de le dire, mais en France, pour la jeunesse. Et je m'interroge quand même aussi sur leur côté passif. Ils subissent. Moi, quand je les ai dans mon bureau, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? C'est comme ça. Voilà, un espèce de défaitisme qui fait qu'ils ne peuvent pas changer les choses, alors que la France, demain, c'est eux. Et c'est à eux de faire en sorte que...
Vous voulez comprendre pourquoi les jeunes partent là-bas ?
Douniazade.
C'est simple. Vous appelez, vous êtes juste chippé, hein, juste pétissé, basané. Vous galérez à trouver du travail parce qu'on s'appelle Kader ou parce qu'on s'appelle Fatima ou parce qu'on s'appelle... C'est pareil pour les Arabes, pour les Gitans, pour les Noirs. On galère, faut pas se voiler la face. Moi, je le vis tous les jours. J'ai dû reprendre les cours parce que je pouvais pas trouver du travail. On arrive à un moment donné où on pète les plans, où on se dit « putain, je suis là, je fais tout ce qu'il faut pour trouver du travail, je me présente bien, j'ai une façon de parler qui est correcte. » Eh bien, parce que je ne suis pas blonde aux yeux bleus ou je ne m'appelle pas Martine ou Caroline, ben, je ne trouve pas de travail. Il y a des gens, ils vont dire « non, mais tu généralises le truc, c'est pas partout. » Non, c'est pas partout. Mais venez où moi j'habite, c'est compliqué à trouver du travail. À un moment donné, les jeunes, ils pètent les plombs parce qu'ils se disent quoi ? Ils vont vendre de la drogue, ils vont rentrer en prison. En prison, ils vont ressortir, ils vont re-rentrer, ils vont ressortir. À un moment donné, ils vont péter les plombs. On va venir leur dire ça. Ils vont partir. Parce que la plupart des jeunes qui sont partis là-bas, dans la France entière, si vous regardez bien, c'est des jeunes qui connaissaient rien à la religion, qui priaient même pas et qui étaient en bas des bâtiments à longueur de journée. Donc ouais, moi, je peux concevoir qu'un jeune, il puisse péter les plombs. C'est normal. Parce qu'on est voilé ou parce qu'on a une barbe. Ou parce... Il y a des gens, ils sont barbus, ils trouvent du travail. Mais pourquoi ? Parce qu'ils s'appellent Julien, parce qu'ils s'appellent Nicolas. Mais un rebeu, un arabe, pardon, qui va avoir une barbe, mais qui ne sera pas dans la religion, eh bien, juste parce qu'il va avoir une barbe et qu'il va s'appeler Mohamed, on va dire non, lui, c'est un musulman, c'est un extrémiste parce qu'il a une barbe. Ou on va avoir une fille voilée dans la rue, c'est une extrémiste parce qu'elle est voilée. Alors que ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de tout mélanger, c'est n'importe quoi.
Je dirais tout simplement que l'homme ne vit pas que de pain.
Emmanuel Fidalgo, responsable à Marseille d'une des plus grosses missions locales de France.
Que j'ai un bac plus 5 ou que j'ai un bac moins 5, et encore un bac moins 5, je suis peut-être plus pratico-pratique dans la vie qu'un bac plus 5. D'accord, il faut que je bouffe, quoi. Il faut que je... La question qui se pose pour moi, c'est le regard qu'on me porte. Hein. C'est terrible parce que les gens pourraient finir par croire que c'est telle religion qui produit tel monstre. Je ne pense pas que ce soit la religion qui produit le monstre en soi. Si, une religion peut produire des monstres, mais je ne pense pas que ce soit la religion qui produise les monstres. Je pense que c'est tout simplement le manque de regard, de bienveillance, et de regard qui grandit l'autre, qui fabrique des monstres. Un être humain, il ne réagit pas au fait qu'il n'a pas bouffé. Hein. Il réagit au fait que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Hein. Et s'il sent que tu ne l'aimes pas, plus son niveau est grand, plus il a des arguments pour expliquer ou pour comprendre pourquoi tu ne l'aimes pas. Il est cultivé, il connaît son histoire, il sait d'où il vient. Et tout, c'est ce qu'on lui a raconté, c'est ce qu'on a tronqué dans l'histoire. Prenez les Noirs américains, ils ont reconstruit l'histoire des Noirs d'une façon un peu curieuse, des Noirs africains, que même les Africains ils s'étonnent. Hein. Donc voilà, les gens se reconstruisent, parce qu'après tout, un bac plus 5, c'est comme papier. Hein. Mais si je ne sors pas du bac plus 5 avec la possibilité d'aller m'insérer dans un métier de niveau bac plus 5, oui, on en revient toujours à cette question-là de la place, de trouver sa place, là. Donc voilà, quoi, j'aurais montré ce que je sais faire, parce que je suis brillant, je suis intelligent, j'ai eu les moyens d'y arriver, d'étudier, etc. Mais après, maintenant, se pose la vraie question, ma vraie place, quelle est ma place ? C'est pas le papier qui va me le donner, C'est ce que je vais apporter moi, mais si on ne veut pas que je l'apporte ici, je l'apporte ailleurs.
La jeune fille qu'on a rencontrée parle beaucoup de religion, elle a peur qu'on lui enlève sa religion, elle utilise la religion comme une espèce de drapeau identitaire. C'est quoi la place de l'islam ?
Moi je pense que c'est central parce qu'on le centralise. On en parle partout, on en parle dans les médias, on en parle à l'école, on en parle dans les associations. Donc forcément, les jeunes se raccrochent aussi à ça.
C'est un phénomène nouveau. Il y a 15 ans, 20 ans, il n'y avait pas autant de femmes qui revendiquaient le port du voile. Il n'y avait pas autant de jeunes qui se revendiquaient musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
Il y a 15 ou 20 ans, je pense qu'on laissait les gens s'exprimer comme ils le voulaient. Chacun pratiquait sa religion, s'habiller comme il le souhaitait, porter le voile ou ne le portait pas.
Catherine, psychologue à la mission locale que fréquente Douniazad depuis la mort de son frère en Syrie.
Et puis entre-temps, il y a quand même des lois qui sont sorties, plus de voile à l'école. Enfin, on a vraiment mis une pression là-dessus et je pense que du coup on est sur une revendication ou une révolte de la part de ces gens-là qui veulent garder leur identité et qui vont souvent le faire aussi ou parfois par provocation. On me l'interdit, moi je vais le porter. Et c'est pas pour autant qu'ils savent pourquoi ils le portent. Hein.
Il y a quand même un traitement particulier de cette religion par les élus, par les médias. Quand on a parlé du voile à l'école, on savait très bien de quelle religion on parlait. On ne parlait pas ni des juifs, ni des chrétiens. Donc eux le vivent quand même comme une attaque.
Marianne.
Et puis on va les attaquer, et puis ils vont se revendiquer de cette appartenance religieuse.
Moi je pense qu'on a trop insisté sur la laïcité. Il n'y avait pas besoin. Il y a 15 ou 20 ans, on se posait moins la question.
Finalement, ils ne se retrouvent ni en France, ni au Maroc, ni en Algérie, etc. Par contre, ils se reconnaissent sur Internet. Et allez voir les Facebook de ces jeunes, ils ne parlent que de religion sur Internet. Et c'est là qu'elle est leur identité. En tout cas, moi, c'est ce que j'en conclus. Là, ils ont un espace Internet pour s'exprimer, pour se revendiquer. Et finalement, ils se retrouvent avec d'autres dans cet espace-là. Alors, plus sur notre territoire, mais dans l'espace Internet.
On a l'impression que la religion, c'est vraiment le centre de leurs préoccupations, ce qui est assez étrange quand on a 15 ans ou 20 ans.
Moi, je pense que c'est préoccupant et inquiétant que ça soit le centre de leur réflexion et de leurs échanges. Alors, où ils ne croient plus en ce qui se passe à l'extérieur, et du coup, ils se rabattent sur la religion. Moi, je pense que c'est ça. Ils ne croient plus au travail, ils ne croient plus à la formation, ils ne croient plus à l'avenir, et ils ne veulent pas faire de projet. Et ils se bloquent sur la religion. Et moi, ça m'inquiète, parce que le monde, il n'est pas fait que de la religion. On a quand même une jeunesse qui n'a pas un très bel avenir devant elle. Alors nous, ce n'est pas du tout le genre de propos qu'on tient auprès des jeunes. Hein. On les motive, on les rassure, on essaie de leur proposer, je dirais, un monde meilleur. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Ils en sont bien conscients. Maintenant, je n'ai pas le sentiment que ça soit le cas de toutes les religions. Mais je trouve que c'est très très présent au niveau des jeunes musulmans.
Comment vous expliquez que ça soit spécifique, entre guillemets, aux jeunes musulmans ?
Moi, chez les jeunes, je l'expliquerais aussi en termes de valeurs. Ils ont besoin quand même de trouver des valeurs. Alors, ils voient l'avenir très noir, ils ne le voient pas, l'avenir. Je trouve des jeunes qui sont vides, qui n'ont pas de passion, qui ont pas, et qui n'arrivent pas à se projeter. Du coup, ils ont quand même besoin. Alors, on va reparler de l'identité, on va reparler de tout ça, mais si on ne se sent pas français, qu'on ne se sent pas marocain, on se sent musulman. Et voilà aussi pourquoi il y a tout ce discours sur « je suis arabe, je suis musulmane, je suis française, je suis nana », cette confusion, parce que, ils se sentent ni français, ni marocain, ni algérien, ni autre, mais ils se sentent musulmans.
En même temps, la jeune fille avait du mal à condamner tous ces jeunes qui partent faire la guerre. Alors effectivement, on dit « ah oui, ils sont partis faire de l'humanitaire », mais tout le monde sait bien que c'est pas de l'humanitaire qu'on va faire en Syrie.
Aujourd'hui, on le sait. À l'époque, on le savait pas.
Cette jeune fille, si elle n'arrive pas à condamner, c'est qu'elle a perdu son frère là-bas. Voilà, elle a perdu son frère qui est mort. Moi, c'est un jeune homme que je connaissais, un jeune homme très bien. J'étais la première surprise de son départ et de son décès. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je pense qu'il a été manipulé à un moment où il devait être mal, en mal de travail, en mal d'avenir, en mal de projet. Mais elle ne peut décemment pas condamner son frère. Et elle pense qu'il est parti pour une bonne cause. Même si elle sait qu'au final, c'était pas pour une bonne cause, mais... Voilà.
C'est un public jeune, hein. C'est un public en recherche et en questionnement. Même lorsque la position affirme une certitude, c'est un public avec lequel on peut échanger.
Emmanuel Fidalgo.
C'est-à-dire, nous sommes avec des personnes en questionnement, en recherche. Les missions locales sont peut-être les seuls lieux où les jeunes viennent encore d'une manière massive, librement, sans aucune contrainte ni obligation. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des échanges qui se font et qui peuvent permettre des prises de conscience, qui peuvent permettre des orientations pour les personnes qui sont hésitantes, qui peuvent permettre la rencontre avec d'autres types de professionnels pour approfondir un peu plus la question. Voilà. Aujourd'hui se construit cet espace-là où nous ne sommes plus dans la peur, l'inquiétude, mais plutôt nous sommes en train quelque part d'absorber un phénomène social et de créer cet espace où ça peut être discuté. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est un lieu ouvert et d'écoute. Les conseillers tiennent à défendre énormément ce premier niveau-là qui est l'écoute. Et dans cet espace écoute, ces enjeux-là peuvent être évoqués ou pas.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que quand on écoute la télévision, quand on regarde les reportages à la télévision, on a l'impression que tous les jours, les personnes qui reçoivent le public dans l'émission locale sont confrontées à des gens qui refusent de serrer la main d'une femme, qui refusent de s'asseoir sur une chaise où une femme s'est assise précédemment. On a l'impression que dans toute l'émission locale, c'est l'effroi le plus total parce que on est confronté à ce type de population. Encore une fois, c'est le prisme de la télé qui déforme la réalité mais qui en même temps a une incidence sur la réalité.
Oui, j'aurais tendance à dire on se calme. Non, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un déferlement dans l'émission locale de ce genre de choses. Nous accueillons énormément de monde dans l'émission locale en France, notamment sur Marseille, qui est la mission locale la plus importante en France. Si vous me demandez combien vous avez eu de cas qui vous ont été remontés à vous, référant à cette question, je vous dirais zéro. Non. Pourquoi? Parce que d'abord, en termes de masse, on n'a pas cette masse-là qui dépasse. Il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague. Et que lorsque la question se pose dans un cas bien précis, encore par rapport à certains métiers bien précis. Aide aux personnes, travailler avec les enfants, etc. La restauration. Mais aujourd'hui, on n'a pas de déferlement dans les missions locales de ça. Il ne faut surtout pas l'imaginer, ni dans les pôles emploi, ni ailleurs d'ailleurs. L'information qui passe à la télé, c'est l'information de l'ordre de la sécurité publique. Aujourd'hui, on n'en est pas là, nous. On est encore dans notre domaine de l'insertion socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent pour lesquels la question qui se pose, c'est de trouver un travail. Trouver une formation, trouver un hébergement, résoudre un problème de santé, voilà. Je pense que ces choses-là, c'est sous d'autres strates. On est dans le cadre d'un service public, les gens savent ce qu'ils viennent y trouver, les jeunes savent ce qu'ils viennent demander, ce qu'ils viennent trouver, point barre, ils vont pas plus loin, hein.
Alors dites-moi, Emmanuel Fidalgo, c'est une révolution aussi politique et une révolution dialectique. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si l'islam est soluble dans la République française ou pas. C'est quelque chose d'inimaginable à l'époque même des SOS Racisme, par exemple.
Je ne suis pas spécialiste, je ne suis qu'un citoyen qui essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui, qui a peut-être une sensibilité un peu plus grande par rapport à ces questions-là. Mais comment faire aujourd'hui pour que des millions de gens qui vivent sur notre territoire, en quête de repères identitaires forts, par exemple, ne se séparent pas dans le territoire et du territoire? Comment faire ça? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à remettre en cause donc en principe? Absolument pas. Je ne pense pas. Alors ça, c'est une certitude profonde. Encore une fois, je dirais là, c'est presque très primaire ce que j'ai dit, la seule solution ou le seul moyen pour arriver, c'est que réellement on revienne à ce que l'école a toujours été, c'est-à-dire en capacité de permettre aux personnes d'apprendre, de découvrir, pour se faire soi-même et construire soi-même sa propre pensée. Et ça, ça ne peut se faire qu'à un niveau très, très, très jeune. Je prends un exemple personnel. Je suis venu d'un pays, certes, christianisé, mais ce pays-là, qui était une colonie portugaise, la religion avait une prégnance qu'elle n'avait pas en France quand je suis arrivé. Alors comment j'ai dû faire pour... Il fallait que je comprenne l'histoire pourquoi c'était comme ça, que je comprenais la place des prêtres dans la société, la place de la religion dans la société, alors que moi, les prêtres, ils venaient chez ma grand-mère, ils étaient les rois, ils étaient les chefs, quoi. Il a fallu que j'apprenne tout ça, et c'est l'école, et c'est l'illustration des luttes qu'il y a eu dans l'histoire pour arriver à ce que l'on puisse vivre tous ensemble, pour qu'il n'y ait pas une pensée totale qui absorbe toutes les autres. Et ça, c'est la découverte de la pensée laïque qui m'a permis de comprendre ça, de comprendre qu'on pouvait vivre tous ensemble sans avoir à être dans des rapports de domination. Et cette pensée laïque, je pense qu'il faut y réfléchir aujourd'hui avec encore beaucoup plus de prégnance, parce qu'après tout, ce qui a permis peut-être à la France d'avoir son aura auprès du monde entier, c'est d'apparaître, comme par exemple pour les Noirs américains qui ont découvert la France lors de la Seconde Guerre mondiale, un espace de liberté à nul autre pareil. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il ne faut pas inscrire les choses uniquement dans les rapports de domination, de soluble ou pas soluble. Il faut peut-être réfléchir à comment cette élasticité de la laïcité peut permettre aux uns et aux autres de trouver leur place.
J'ai arrêté l'école parce que déjà, d'une, je portais mon voile et qu'on n'avait pas le droit de le porter. Bon, à l'heure actuelle, je ne le porte plus, mais bon, c'est un choix aussi, comme quand je l'ai porté. Je pense que quand on va à l'école, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, quoi. Je sais pas, en fait, c'est...
Zoumouroud et Scheherazade.
Je sais pas, on est dans une belle république, alors faudrait que ça suive, quoi, derrière. Mais moi, ça me dérange pas que quelqu'un vienne avec sa kippa à l'école, ou sa croix, ou peu importe, ça me... Je sais pas, je m'en fous, quoi, c'est sa vie, et puis... Ça me dérangerait pas autant pour d'être ami avec, ça, vraiment pas. Mais non, apparemment, le voile dérange beaucoup. Beaucoup, alors que c'est juste un bout de tissu sur la tête, j'ai envie de dire. Putain, mais arrêtez de faire chier le monde, j'ai envie de dire ouvertement. Hein.
Les slogans de la France, liberté, égalité, fraternité, il faudrait les changer. C'est pas du tout liberté, égalité, fraternité. On n'est même pas libre de mettre le voile tranquille. Il y en a qui se font cracher dessus, il y en a qui se font agresser.
L'école aussi. L'école, moi j'ai eu des professeurs qui m'ont dit « t'arriveras à rien dans ta vie » parce que je m'intéressais pas aux cours.
Douniazad.
Je sais pas, venant d'un prof, je trouve ça un peu petit. T'es pas là pour rabaisser l'élève. T'es là pour lui faire comprendre, lui apprendre. Apprendre une leçon à un élève, c'est lui apprendre la vie aussi d'un côté, hein, que ce soit des maths, de l'histoire ou du français. C'est apprendre la vie aussi. Si en permanence l'élève il se fait rabaisser par son professeur, il n'aura jamais envie d'avancer dans sa vie, il n'aura jamais envie de trouver du travail. Il va dire, si on m'a rabaissé toute ma jeunesse, ça veut dire que je ne suis pas capable. Parce que vous les voyez fort et tout, ou forte. Mais si toute votre vie, on vous dit, ouais, tu n'y arriveras rien, à un moment donné, vous le mettez dans votre tête et vous dites, oui, j'y arriverai à rien. Je suis bonne à rien, ou je suis bon à rien.
Alors dans ce pays où on considère que l'école est formidable et que l'école permet à tout le monde d'avoir la même chance, on pense que tout ça, c'est de la faute des parents. Qui n'éduquent pas leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui laissent les enfants traîner très tard le soir dehors, que les parents sont absents pour faire le suivi scolaire, pour les aider à faire leurs devoirs, et que par conséquent, livrés à eux-mêmes, tous ces enfants seraient réceptifs à plein de choses, et notamment à ces gens qui retournent le cerveau de tous ces jeunes qui décident de partir en Syrie.
Bon, déjà l'école, on ne va pas se plaindre en France. L'école, c'est ouvert pour tout le monde, c'est gratuit. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là dans le monde. L'éducation, c'est important. Après, dire que les parents n'éduquent pas leurs enfants, non. C'est pas la faute des parents, loin de là. Les parents, la vie scolaire, ok, ils rentrent chez eux, ils regardent les cahiers des enfants, t'as fait tes devoirs, nanana. Pour moi, c'est pas les parents. Les parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour éduquer leurs enfants. On remercie nos parents parce que grâce à eux, on est là où on en est aujourd'hui. Après, ceux qui partent en Syrie, perdre son enfant dans une guerre, je pense qu'aucun parent ne le souhaite. Qu'il soit musulman, qu'il soit français, qu'il soit juif, qu'il soit athée, qu'il soit n'importe quoi. Personne ne le veut. Aucun parent, je pense, ne veut ça pour son enfant.
Alors après, moi, je me suis quand même posé la question, juste une dernière chose aussi. Est-ce qu'on laissait... Ça va être en contradiction un petit peu avec ce qu'on a dit, mais ça n'empêche pas. Je me suis posé la question si finalement on leur donnait pas trop. Bon, l'adolescence, on est dans la période du questionnement, hein, qui suis-je. Ils apportent une réponse à ce questionnement-là. Ça veut dire que nous, on n'est plus capable en France d'apporter cette réponse-là à ces jeunes. qui je suis, où elle est ma place, etc. Eux, ils vont répondre à ça. Tu es l'élu, tu es... Voilà, ils vont trouver la réponse. Donc, voilà. Est-ce que, aussi, nous, on n'est pas trop à laisser le choix, finalement, à ces jeunes, bah, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Là, ils ont une réponse directe. Finalement, on se demande si cette jeunesse, elle n'est pas un peu perdue, parce que très livrée à elle-même, très pas d'interdit. Et finalement, ils vont aller les chercher, ces frontières, cette autorité, ces interdits. Et ils vont peut-être la trouver là-dedans. Alors après, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants non plus. Daesh, Al-Nusra, je ne sais pas qui fait quoi, qui les manipule, qui leur parle, qui... Voilà. Mais la réponse, elle est individualisée. Voilà. En effet, ça ne va pas être à la même technique pour une jeune fille de 16 ans d'origine musulmane que d'un jeune homme de 18 ans qui n'a jamais rien connu à l'islam et qui d'un coup va se convertir. On est sur des choses très très différentes. Eux, ils répondent de manière individualisée. Donc nous, il faut qu'en France aussi, on trouve une réponse de manière individualisée, et c'est ce qu'on a du mal à faire. Parce que vous voyez, même dans les questions, quel type de jeune c'est, qu'est-ce qu'il y a ? Et les profils sont très différents, la classe sociale, elle est très différente, les niveaux d'études, ils sont très différents. Donc finalement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne me baserai que sur le discours du jeune.
Alors, comment faire dans une société très imperméable, finalement, avec un système éducatif qui, on le sait, hein, reproduit les inégalités sociales, hein, c'est l'égalité des positions et l'inégalité des conditions. Les enfants n'arriveront jamais tous armés de la même façon à l'école. Il y a des conditions aussi socio-économiques, il y a des conditions aussi culturelles, donc c'est pas que l'école. Et puis aujourd'hui, on cherche des solutions, mais qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 20 ans, par exemple, et aujourd'hui, dans cette société, parce qu'on se dit, ah, il faut trouver des solutions, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce que cette société n'a pas fabriqué et qui a permis, justement, on parle de déradicalisation, mais qui a permis la radicalisation?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est un aveuglement. Le libéral, à la différence du réactionnaire, il ne délimite plus le monde, lui. Le monde est un grand espace universel où il suffit d'entrer par la porte principale et les choses, naturellement, entrent en harmonie. Comment voulez-vous que les choses puissent se faire autrement que par la rencontre? Elles ne se font pas toutes seules, les choses. Hein. Même moi, pour évoluer dans mon échelle sociale, il a fallu que je franchisse cette barrière qu'on appelle raciale, sociale et autres, qui font que, pour certains individus, c'est plus compliqué que pour d'autres. Mais alors, quand on met au milieu la guerre d'Algérie, quand on met au milieu toutes ces histoires-là, ça rend encore les choses plus difficiles. Quand on met au milieu la religion, ça rend les choses très, très difficiles. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'on a laissé les choses en l'état, peut-être parce qu'il y avait énormément de combats à mener, hein, la délinquance. Hein. On a laissé s'installer dans l'éducation nationale une sévérité dans les orientations qui font que beaucoup de jeunes sortent de l'école avec un sentiment d'échec. On a laissé s'installer dans certains quartiers des problématiques de chômage qui perdurent, sans qu'il y ait une vision de la sortie de ces situations pour beaucoup de jeunes. On a laissé aussi, au niveau politique, on a laissé se déconstruire quelque chose qui pouvait faire un socle commun, qui est le maillage territorial par les associations et le rôle qu'elles pouvaient jouer de fédérer les uns les autres vers le bien commun. Et, ces associations, depuis des années, luttent pour leur survie. Et quand on lutte pour sa survie, on ne peut pas être libre d'esprit et s'engager à fond dans ce qu'on doit faire, malgré le travail extraordinaire que font ces associations. Qui plus est, même pour les classes moyennes, on a laissé s'installer tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, devant toutes ces difficultés-là, les gens se tournent vers des réponses rassurantes, qui est dépendre d'une vérité absolue, intangible, incontournable, qui ne change jamais, construire des liens communautaires très forts qui sécurisent et dans lesquels on peut trouver des solidarités qu'on ne retrouve plus ailleurs, et surtout, tout bêtement, retrouver un sentiment de fraternité qu'on ne nous renvoie pas dans le bus quand on nous regarde ou dans les administrations qui vont faire des démarches ou dans d'autres situations. Voilà, c'est ce qui fait que cet universalisme très libéral, selon moi, étant dans les capacités de définir, entre guillemets, des, pas des limites, mais des repères, on se retrouve confronté aujourd'hui à quelque chose de difficilement contrôlable. Quand je vois tous ces jeunes-là, parce que j'ai été conseiller longtemps avant d'être responsable de l'antenne, quand je vois ces jeunes-là, je dis, mais avant d'être, entre guillemets, l'insérable, si je peux m'expliquer, c'est une personne. Et avec tout ce que transporte la personne, l'histoire de ses parents. J'ai un exemple typique, c'était dans les années 90, je travaillais à la mission locale des Flamands, là, 13e, 14e arrondissement. Et un jeune, on lui avait trouvé un stage à l'AFPA, à La Treille, qui est dans le 12e arrondissement. Bah, il ne voulait pas aller, il ne voulait pas quitter son quartier, la paternelle, pour aller à l'AFPA. Et une collègue a eu une question fort pertinente. Il fait, mais ton père, tu sais d'où il vient? Il fait, oh non, mon père, il ne raconte jamais son histoire. Il y a déjà ça. Et ces jeunes, ils sont dans des logiques de scolarité, d'identité, de présence multiple, et je veux voir qui je suis. Ben, il y a cette question-là, qui je suis, où je vais, d'où je viens. Hein. Ben, c'est tout ça qui renvoie à tout ça. Et après, il y a ce qui me renvoie le présent. Je cherche du boulot, et ben, je suis dans un pays qui est en crise, mais là, quand il y a crise, ceux qui vivent mal la crise sont les vieux, les femmes, les immigrés, etc., etc. Donc vous voyez, les réponses sont multiples. Il n'y a pas qu'un élément qui va dire la cause de ce phénomène, c'est ça. Si on revient à la question du début, c'est comment une société aujourd'hui, elle permet à la personne de donner du sens à sa présence au monde, dans la société et autres. Ben, à partir du moment où elle n'est plus en capacité de répondre et donner un sens global, et à partir du moment où l'individu se sent éclaté, morcelé, un peu comme dans Kafka et autres, hein, il va chercher l'unité quelque part. Et son unité, quel est le meilleur moyen d'apporter l'unité qu'une vérité spirituelle? Aujourd'hui, je n'en vois pas trop. Hein. C'est vraiment, je trouve, très, très, très complexe. C'est vraiment pas uniquement une question d'identité de l'autre différent, mais c'est une question d'identité du français lui-même. Hein.
La solution, moi, je ne l'ai pas.
Marianne.
La solution, je ne l'ai pas. La solution, elle est...
Vous ne l'avez pas, mais le gouvernement semble l'avoir.
Eh bien, le gouvernement devrait discuter un petit peu plus avec notre jeunesse, parce que le gouvernement a... Mais bon, comme cette problématique comme d'autres, hein, très certainement. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner mon avis politique, mais quand j'entends Emmanuel Macron dire la jeunesse, il ne faut pas qu'elle attende d'être salariée, il faut que... Je l'ai vu, hein. Il faut monter des entreprises, il faut que la jeunesse, elle monte des entreprises. Citez-moi le nom d'une banque qui fera des prêts à ces jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de qualification, qui ont envie. Moi, j'en vois des jeunes qui ont envie. J'aimerais bien monter telle entreprise, mais il me faut des financements, il me faut des trucs. Et puis personne va m'aider. C'est hyper complexe. Même moi, j'ai essayé de me mettre à mon compte. C'est quelque chose d'hyper complexe. C'est hallucinant. Donc la réponse des politiques, elle est bien mignonne, elle est bien gentille, mais qu'ils aillent discuter un petit peu avec les jeunes, ça leur ferait du bien.
Merci à Michel, David Valat, Ivano, Zumurud, Scheherazade, Douniazade, ainsi qu'à Marianne, Catherine, Tahara Kermi et Emmanuel Fidalgo. Radicalisation. La France n'avait qu'à bien se tenir. Réalisation Doria Zénine, mixage Bernard Laniel, attaché de production Marie-Vena Bolivier, Christine Bernard et Alison Sinard, coordination Perrine Carvan, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire.
Et voilà, LSD, la série documentaire, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est proposé par Perrine Carrand avec Marie-Vonne Abolivier. Bibliographie, podcast, réécoute, liens et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et demain, c'est le troisième épisode, Les mots de la radicalisation, un diagnostic bien tardif. Mais tout de suite, on retrouve Hervé Gardette.